Thomas Dossembourg, merci beaucoup d'être là et bienvenue au Québec.
Merci.
Il fait froid un peu pour vous, là.
Pour moi, il fait un peu froid, oui. On n'est pas encore habitué en Belgique à avoir cette température à cette saison-ci.
L'édition originale de votre livre « Cessez d'être gentil, soyez vrai » est paru en 2001, il y a 13 ans. Je dois vous dire que moi, je n'avais pas 20 ans encore à cette époque-là. Donc, je ne m'intéressais pas nécessairement à ce genre de thème, à ce genre de sujet encore. La version illustrée de votre livre d'Alexis Nouella m'a permis de découvrir, et même si j'avais entendu parler de vous maintes et maintes fois, j'avais entendu ce titre-là énoncé également, mais ça m'a permis de découvrir cet ouvrage parce que c'est rigolo, parce que c'est illustré extrêmement accessible. Est-ce que c'était une façon de faire redécouvrir ou découvrir l'œuvre?
Oui, absolument. Je suis heureux que ça vous ait plu parce que c'est bien l'idée, c'est de toucher un public qui n'aurait pas forcément lu un gros livre, qui a envie de lire en se divertissant, en s'amusant de façon légère. Et je pense qu'on peut vraiment faire du ludico-pédagogique, disons. Je pense qu'on apprend mieux en s'amusant et en se détendant. Et c'est bien l'objectif de ce livre, c'est donner quelques clés de connaissance de soi et d'amélioration de la relation humaine en s'amusant.
Et ça permet de souligner que ce n'est pas du tout démodé, là.
Ah non, c'est pas
comme
démodé.
Sujet.
C'est surprenant, mais voilà, il est sorti depuis le mois de février ou début mars. Ça fait seulement quelques mois et il est déjà vendu à plus de 21 000 copies. Ça veut dire qu'il y a de l'intérêt pour ça. Beaucoup de gens ont envie de mieux communiquer, de pouvoir s'affirmer avec plus de clarté, de pouvoir aussi mieux écouter les autres, être plus empathique, mieux comprendre ce qui se passe quand l'autre est difficile à comprendre. Mmh. Donc ça reste un sujet vraiment d'actualité. Je pense que la relation humaine est au cœur de notre vrai bien-être. Nous sommes heureux quand la relation humaine se passe bien, nous sommes malheureux quand elle ne se passe pas bien.
Oui.
Et donc nous avons besoin de faire certains apprentissages qui ne sont pas encore dans les programmes scolaires.
Oui, la relation humaine est au cœur de nos vies, la communication aussi. Mmh. Vous en parlez beaucoup, de la communication non violente, entre autres choses, que vous avez appris dans votre parcours de vie. En 2014, de par les technologies, de par les médias sociaux, notre façon de communiquer est extrêmement différente. Est-ce que ça peut justement brouiller un peu nos relations humaines?
J'ai cette crainte effectivement que nous soyons à une époque où on communique de plus en plus vite, et de plus en plus mal. Mmh. C'est-à-dire que on est dans la rapidité, dans le tac au tac, dans l'action-réaction et pas dans la profondeur, dans la finesse et dans la nuance. Et bien sûr que les outils technologiques sont des outils précieux, mais ils peuvent aussi, si on ne les manipule pas bien, nous couper de discernement, de la conscience, de l'attention, de l'empathie, de la bienveillance. On peut s'envoyer un courriel incendiaire, on peut s'envoyer un texto agressif. Et je crois que nous avons donc besoin de garder la conscience que nous sommes des êtres humains qui avons besoin de liens profonds, de liens authentiques, de liens chaleureux, de liens empathiques. C'est notre nature profonde. Et je souhaite simplement nourrir cette conscience-là, ce qui n'empêche pas de s'envoyer bien sûr des textos ou des courriels, mais en ayant conscience que c'est surtout la qualité du lien qui nous importe au fond.
Cessez d'être gentil, soyez vrai. Je me suis interrogée beaucoup sur la signification des termes. Quand vous dites cesser d'être gentil, c'est pas d'être poli ou d'être courtois, c'est pas ça le terme que que vous avez voulu dire.
Ah non, je ne vise bien sûr pas la vraie bonté, la vraie générosité qui sont des qualités que je chéris, je pense comme chacun d'entre nous. Ce que je vise, c'est la gentillesse de façade, vous savez, la gentillesse qui nous fait dire tout va bien alors qu'au fond on pense rien ne va plus, mais j'ose pas le dire parce qu'on va pas m'aimer si je dis ça. C'est la gentillesse qui nous fait dire oui, on reviendra avec plaisir chez vous alors qu'au fond on pense à non plus jamais chez eux. Et au fond, nous avons pris cette habitude de dissimuler et au fond si on met les mots justes, de mentir, de traverser la réalité. Et je vous invite à voir que si nous sommes choqués de voir dans le monde la langue de bois, l'hypocrisie, la trahison, ça nous choque profondément, eh bien, il peut arriver que nous y contribuions nous-mêmes à notre petit niveau. Alors, devant le chaos du monde, voulez-nous ajouter encore notre propre chaos, notre propre confusion? Moi, je ne ferai pas ce choix. J'ai besoin d'une écologie relationnelle qui commence par moi, là où je suis, là où je vais, avec qui je rencontre, je suis vrai. Je tiens à être authentique, à être sincère et à apporter cette parcelle de clarté à ce monde qui est effectivement très souvent confus.
Et justement, quand on s'éloigne de notre nature, et ça, vous y revenez souvent dans votre livre, et qu'on se dit oui, OK, je vais retourner chez toi, mais qu'on n'a pas envie, finalement, mm-hmm. on contribue à cette cocotte minute là, qui gronde à l'intérieur de nous.
C'est ça, c'est la mécanique que j'identifie dans mon livre de la cocotte minute, c'est-à-dire que nous rentrons à l'intérieur de nous-mêmes nos désaccords. On dit oui alors qu'on pense non. On rentre ces émotions que l'on juge négatives. La colère, c'est pas bien, on ne va pas m'aimer, donc je ne me montre pas en colère. La tristesse, c'est pas bien, il ne faut pas être triste, il faut avoir l'air d'assurer. Alors je rentre tout ça dans ma cocotte minute, mais je sers toutes sortes de couvercles familiaux, sociaux, religieux parfois, sur cette cocotte professionnelle aussi, les couvercles. Mais la cocotte, elle n'est pas statique, elle est posée sur le feu du temps qui chauffe, et à un moment, ça pète dans tous les sens, la cocotte explose. Et je pense que beaucoup de personnes se reconnaîtront dans le fait d'avoir parfois fait des colères qui vont bien au-delà de ce que la circonstance justifie, mais il y avait accumulation. Et si la cocotte n'explose pas, il peut arriver que la cocotte implose. Elle implose dans la dépression, dans le burn-out et dans la maladie. Aujourd'hui, bien, des médecines font des liens très clairs entre le refoulement des émotions et l'impact somatique. Donc je crois que sur le plan de la santé publique, nous avons absolument besoin aussi d'apprendre à être vrai. Au fond, ce livre devrait être subsidié par le gouvernement. Il est d'utilité publique, si vous me permettez.
Vous parlez aussi beaucoup, Thomas Dansembourg, de la colère. Qu'est-ce qu'elle révèle sur nous, notre colère?
Alors, je suis heureux que vous le voyez comme ça. Elle nous révèle beaucoup de choses sur nous. 90% des colères qui partent contre l'autre, qui a fait ceci ou ça, qui a été si méchant avec nous. Au fond, si nous les décantons et les scannons vraiment avec discernement, elles vont nous ramener à nous-mêmes. Est-ce que j'ai été suffisamment clair? Est-ce que j'ai demandé vraiment ce que je voulais? Est-ce que j'ai pas attendu confusément que l'autre me comprenne alors que moi, je suis pas clair? Est-ce que j'ai suffisamment écouté l'autre? Est-ce que j'ai donné du temps d'empathie pour l'autre avant d'essayer qu'il ait de l'empathie pour moi? Hein? Est-ce que j'ai pas des choses à lâcher? Est-ce que j'ai pas mis la barre trop haute et je devrais pas être un peu plus réaliste et la descendre? Est-ce que j'ai pas des choses à transformer? Beaucoup de questionnements sur nos vrais besoins viennent si nous acceptons de nous asseoir avec notre colère, de l'écouter, de lui faire de la place d'abord à l'intérieur de nous avant de l'exporter sur la tête de l'autre. Et ça, c'est vraiment ce que j'appelle faire des colères transformantes, des colères non violentes dans lesquelles je vais développer de l'assertivité, capacité à pouvoir dire mon désaccord mais sans exploser. Au fond, je crois que nous éviterions beaucoup de violence si nous apprenions à dire nos colères à temps, dans la bonne mesure et à la bonne personne.
Oui, mais trouver les mots, c'est pas toujours simple. On connaît tous des gens autour de nous qui sont extrêmement éduqués, extrêmement articulés, qui viennent d'une bonne famille, tout comme vous, mais qui ne trouvent pas les mots, qui n'arrivent pas à exprimer leurs propres sentiments, ce qu'ils vivent à l'intérieur d'eux. On fait comment pour arriver à exprimer notre nature et ce que l'on ressent vraiment?
On apprend, comme toute chose. Quand vous avez découvert l'informatique, vous ne saviez pas ce que c'était un clavier, un écran, un système, un logiciel. Maintenant, vous jonglez sur l'informatique. Quand vous avez, à 17, 18 ans, vous êtes assis au volant d'une voiture, vous ne saviez pas comment ça marche, sur quoi on pousse, sur quoi on tire. Maintenant, vous conduisez depuis des années, c'est complètement intégré, vous ne pensez même plus à ce que vous faites. On apprend. On apprend le lien avec soi, on apprend à fréquenter l'humain en soi. Et ce sont des apprentissages qui ne sont pas encore répandus. Je suis convaincu que dans les années qui viennent, du fait du métissage de populations que nous rencontrons, toutes sortes de cultures qui se croisent, les notions de connaissance de soi feront partie de l'apprentissage de base à l'école. Avec lire, écrire et calculer, on va apprendre à connaître l'humain en soi. Parce que c'est la seule façon de comprendre l'humain en l'autre. Et donc cet apprentissage de la relation à soi et à l'autre va faire partie des fondamentaux de l'éducation, parce qu'on a absolument besoin de ça pour bien vivre. C'est un travail que j'appelle d'intériorité citoyenne.
Oui, oui, ça revient
également.
C'est
du civisme, au fond, que d'apprendre à bien se connaître pour se placer au bon endroit.
D'ailleurs, j'ai envie de vous citer, c'est une phrase, moi, qui m'a amenée à réfléchir, qui m'a ébranlée. Pensez-vous que nous pourrons un jour, par miracle, respecter la nature autour de nous si nous n'avons pas appris à respecter notre propre nature?
Je suis absolument convaincu de ça, que l'abus qui est fait de la nature et qui non seulement nous désole, mais nous met vraiment en danger aujourd'hui, cet abus de la nature à l'extérieur et autour de nous est le reflet d'un abus quotidien systématique sur notre propre nature intérieure. Nous ne respectons pas notre sensibilité, notre délicatesse, notre profondeur, notre inspiration, notre intuition, notre besoin de tendresse, de douceur, de proximité, de partage. Nous ne respectons pas ces besoins. Nous sommes partis dans un fonctionnement compétitif, dans des rapports de force, dans un surmatérialisme qui non seulement nous afflige, mais qui comporte le grand risque, effectivement, de conflit, de division. Nous avons effectivement absolument besoin de respecter notre nature parce que c'est comme ça que nous allons nous rendre compte que la nature autour de nous, c'est celle qui nous fait vivre, c'est notre maison.
Et ça revient beaucoup à cette intériorité citoyenne, ce civisme-là qui vous interpelle et que vous soulignez à travers « Cessez d'être gentil, soyez vrai » et qui pourrait être transmis aux enfants là, très, très tôt. Là.
Ah, certainement que les enfants peuvent comprendre ça très vite, qu'effectivement, en se respectant, ils apprennent à respecter l'autre. Qu'en s'écoutant eux-mêmes, ils comprennent ce qui se passe en eux. Donc, ils ont des clés d'empathie pour comprendre ce qui se passe en l'autre. Les enfants sont extrêmement disposés à comprendre ça. Ils sont à l'aise avec ça. Et l'idée qu'effectivement, on respecte toute chose, les enfants respectent le vivant. L'enfant va regarder la mouche qui se noie dans l'eau et la reprendre avec sa fourchette pour lui permettre de s'envoler. Parce que le vivant le touche. Nous sommes, nous, comme adultes, souvent désabusés et on ne fait même plus attention à ces choses-là. Nous avons besoin de renouer la capacité d'émerveillement et d'enchantement. Le monde est d'une grande et exceptionnelle beauté. Et si nous sommes distraits, nous la loupons, nous la manquons. Nous avons besoin de sortir de notre distraction.
Thomas, dans son bourg, il y a également des pièges. Vous parliez de risques, là, mais il y a des pièges qui nous éloignent de notre propre nature.
Oui, c'est ça. Dans l'apprentissage, nous pouvons comprendre que nous sommes dans des pièges que nous ne voyons même pas tellement. Ils sont liés à nos habitudes, à nos automatismes, à nos conditionnements. Et alors, nous croyons exercer notre liberté, alors qu'au fond, nous sommes pris dans ce que j'appelle des enfermements. Des enfermements dans nos habitudes de fonctionnement, dans nos automatismes de pensée, dans nos systèmes de référence qui ne sont pas revisités, qui ne sont pas remis en question et que l'on prend pour acquis une fois pour toutes. Nous avons donc besoin de prendre un temps de distance par rapport à ça en se disant effectivement, tiens, pourquoi je fonctionne comme ça? Pourquoi je ne fonctionnerais pas autrement? Pourquoi j'ai eu cette attitude? Pourquoi je ne pourrais pas en changer? Pourquoi j'ai regardé par cet angle-là? Pourquoi je regarderais par cet angle-ci? Et effectivement, ça nous permet de sortir de certains pièges. Les pièges les plus récurrents, c'est par exemple le piège du faire, de faire de plus en plus en oubliant d'être. Nous oublions d'être. Or, le sens de la vie, c'est d'apprendre à être et d'être joyeux d'être et pas d'être piégé dans la logistique des choses à faire. Ça demande un travail. Et personnellement, si je vous en parle comme ça, c'est que j'étais bien piégé dans le piège du faire, courant trop vite et faisant trop de choses. Un autre piège, c'est la difficulté à dire non et à dire non de nouveau à temps, dans la bonne mesure, à la bonne personne. Souvent, nous sommes trop gentils, nous avons du mal à dire non. Comment voulez-vous être heureux et généreux de votre joie si vous dites oui tout le temps jusqu'au burn-out? C'est juste pas possible. C'est pas forcément confortable d'apprendre à dire non.
C'est ce qui nous éloigne de soi-même.
C'est ça, ça nous éloigne de nous-mêmes. Vous voyez? On a besoin donc de prendre conscience. On ne peut pas sortir d'un piège tant qu'on ne sait pas qu'on est pris dedans. Nous avons besoin d'objectiver. Tiens, ça c'est un piège, je ne l'avais pas vu, mais je reconnais que c'est un piège, ça m'enferme, c'est un enfermement, je ne me sens pas libre là-dedans, j'ai besoin de transformer. C'est la clé pour sortir.
Et bon, je fais un parallèle avec un autre de vos titres, mais ce n'est pas nécessairement confortable. Vous avez écrit « Être heureux, ce n'est pas nécessairement confortable ». Tous ces questionnements-là, ce travail sur soi-même, ce n'est pas toujours jojo, là. On n'est pas toujours bien là-dedans.
C'est ça. Le titre est une apparente contradiction parce que bien sûr, tout le monde espère qu'être heureux, ce soit confortable.
Ouais.
Et sans doute que l'état d'être heureux est confortable en soi, mais pour y accéder de façon de plus en plus fine et de plus en plus généreuse, il y a des choses à démanteler, et il y a des traversées à faire, il y a des transformations à faire qui ne sont pas forcément confortables. Par exemple, l'enjeu de l'estime de soi. Comment voulez-vous être heureux si vous n'avez pas une bonne estime de soi, que vous êtes trop gentil ou que vous êtes trop agressif? Ça ne vous rend pas heureux, ces attitudes-là. Vous prenez toute la place, vous avez un égo hypertrophié, c'est encombrant, les autres ne vous aiment pas, vous rejettent. Nous avons besoin d'apprendre à avoir une bonne estime de soi. Réaliser que l'on a besoin de développer une meilleure estime de soi, c'est inconfortable. On préfère se dire tout va bien, je m'en sors très bien, ça va aller, ou c'est pas grave, ça va s'arranger. On préfère noyer le poisson plutôt que d'objectiver qu'effectivement l'estime de soi est un petit travail à faire sur soi.
Oui.
Personnellement, j'ai dû à un moment accepter ça, c'était pas agréable, mais ça m'a permis de transformer cet aspect de moi-même.
Oui. Et votre livre transforme un petit peu Thomas d'Assembourg. Cessez d'être gentil, soyez vrai, édition illustrée aux éditions de l'Homme, illustrée par Alexis Nouella d'une façon vraiment exquise. Merci beaucoup de votre générosité. Merci de votre passage à l'émission. www.thomasdansembourg.com pour en savoir davantage sur vos conférences, vos autres bouquins et votre façon d'exprimer la vie, d'exprimer le bonheur. Merci beaucoup.
Merci.